C'est ce qu'il va faire. Je ne sais même pas si j'ai donné le titre de mon message. Je trouvais tellement beau ce titre-là que je vais prendre tout le crédit. Non, non, enfin. est-ce que vous l'avez, Lucille? OK, je vais être obligé de vous l'expliquer. Enfin, le titre, c'était... C'est quoi, Lucille? Voilà. Ça vient de William Shakespeare. To be or not to be, that is the question. Et tenter, pas tenter, essayez pas d'éviter cela, ça existe. Je ne veux pas amener de mauvaises nouvelles, mais je pense que si vous êtes chrétien au moins depuis un ou deux jours, vous savez que, bon, il y a des choses qu'il faut vaincre. Il y a des choses qu'il faut demander l'aide du Seigneur. Il y a des choses que là-dedans, c'est hors de notre pensée, mais le Seigneur permet certaines choses pour nous faire ressembler à Jésus-Christ. Comme ils disent au Québec, ça se peut-tu? Oui, c'est le Seigneur, il le fait. Et les voies du Seigneur ne sont pas nos voies. Et dans le pire moment, dans quelque chose dans la vie qu'on pense qu'on n'arriverait jamais à surmonter, eh bien, devant le Seigneur, on surmonte. Pourquoi? Afin que la gloire va au Seigneur. Et quand on passe par ces moments difficiles, et on sait que c'est le Seigneur qui nous a soulevés, laissez-moi vous dire, on donne la gloire à Jésus-Christ. Ce n'est pas nous, c'est lui. Et ça, ça fait un parfum. Ça fait une ambiance, ça fait une odeur où Christ est glorifié. Et le Seigneur va avoir la gloire. Et on a aussi bien de lui donner ça tout de suite. Mais c'est un apprentissage. La vie chrétienne, c'est un apprentissage. Et on est tous élèves. On est tous les gens qui s'assoient au pied de Jésus, dit, Seigneur, tu es le maître, je suis le disciple. Ce que tu enseignes, je veux l'incorporer dans ma vie. Là où tu me mènes, je veux te suivre. Hein? C'est un disciple. Ce n'est pas ma volonté, c'est sa volonté. Et quand ça va de ce côté-là, ça va merveilleusement bien. Et la vie est belle, la vie est réjouissante, la vie est remplie de louanges. Dites-vous amen. OK, on est sur la même page, là. Et voilà. Ça fait que ce matin, nous avons vu quelques passages et on ne veut pas revoir ces pages-là. J'ai d'autres pages. Attendez, ça s'en vient. J'ai vu une fois quelqu'un qui définissait le péché. Savez-vous que dans, je ne dirais pas dans beaucoup d'églises, mais dans les églises présentement, c'est que le mot péché, c'est quand... c'est pas la mode. C'est souvent, c'est que le pasteur, c'est un coach. Et on approche de Dieu, là, pour essayer d'avoir le plus bénédiction possible. Écoute, Dieu bénit. Dieu bénit au-delà. Mais on ne s'use pas de Dieu. On n'utilise pas Dieu pour moi. It's not about me. It's about him. Il s'agit de Dieu. Et juste en passant, c'est que, oui, le péché, puis il me semble que quelque part dans l'Évangile, corrige-moi si j'ai tort, il me semble que le Seigneur dit, prends ta croix et suis-moi. Il y a des gens qui n'aiment pas dire ces choses-là. Parce que la vie est rose, la vie est belle, tu n'auras pas de problème, ça va aller 100 000 à l'heure. Il faut s'entendre. Hein? Si on veut être proche du Seigneur, si on veut faire ça de la façon que lui veut, on ne peut pas oublier cela. N'est-ce pas? On peut avoir une image de Dieu, puis on fait une image de Dieu, que ce qu'on veut de lui... Mais il faut revenir à un moment donné à ce que dit la parole. La parole nous parle dans le blanc des yeux. La parole du Seigneur me coupe. Des fois, la parole du Seigneur va me convaincre, va me donner un sentiment, Seigneur, j'ai pas raison, Seigneur. Toi, tu as raison. Et ça coupe, l'épée de l'esprit, ça coupe profondément à moi. Mais sais-tu, c'est bon. La guérison est là-dedans. Fait qu'on ne prêche pas un évangile légaliste, un évangile qui écrase tout le monde, on est meilleur que les autres. C'est pas ça que je dis. Mais je dis que le vrai évangile est toujours dans l'évangile. Hein? Et on veut rester fidèle. Le Seigneur se révèle à nous. L'Esprit Saint est là pour nous enseigner. Donc, dans tout cela, dans cette façon de vivre pour le Seigneur, il y a des choses qu'il faut passer à travers. Et on vit notre foi dans le Seigneur. Il y a des moments que ce n'est pas toujours drôle, ce n'est pas toujours facile. Mais à travers cela, Dieu est fidèle et il va nous amener au port. Il va nous amener à la victoire et vraiment que notre vie soit changée. Je ne peux pas me changer moi-même. Ce n'est pas une religion. Je ne me change pas. Je ne crée pas une image, je le suis là. Je donne, j'abandonne ma vie au Seigneur. C'est lui qui mène. C'est lui le chef. C'est lui le boss. C'est lui qui sait ce qu'il veut faire dans ma vie. Et je dis, vas-y Seigneur. Et savez-vous, il fait parce qu'il est fidèle. Hein? Le Seigneur est terriblement fidèle. Il agit dans notre vie. J'ai vu quelque chose il y a quelque temps concernant le péché. Et je vais juste vous dire ça, peut-être vous l'avez déjà entendu. Ça fait quelques fois que je l'ai entendu, mais j'ai dit, je vais l'écrire. Il dit, le péché vous emmènera toujours plus loin que vous ne le souhaitiez. Vous retiendra plus longtemps que vous ne souhaitiez et vous coûtera plus cher que vous ne le souhaitiez. Voilà, le péché fait cela. Mais le Christ est venu pour briser le péché. Le Christ est venu pour nous donner un esprit de victoire sur le péché. Le péché, c'est manquer la cible. Le péché, c'est de faire ma volonté plutôt que la volonté de Dieu. Le péché, c'est toutes ces choses-là. C'est même la rébellion contre Dieu. Mais le Seigneur est venu pour briser le péché et le pouvoir du péché dans notre vie. Il nous a fait naître de nouveau. Il a mis en nous l'Esprit Saint. Il a mis dans notre cœur le vouloir de suivre le Seigneur, peu importe ce qui arrive. Et il fait ce travail, et il approfondit ce travail, et un jour, il va l'amener à terme. Un jour, on va se tenir devant lui. Il va nous changer radicalement encore. On est changé là, mais attendez ce qui s'en vient. Un jour viendra où on n'aura plus l'idée du péché, de faiblesse. On serait glorifié. On aura encore glorifié. C'est ce que le Seigneur nous a promis. Et il a mis ça dans notre cœur. On a cette confiance. Fait qu'on a hâte. J'ai hâte de voir le Seigneur dans toute sa gloire. On l'apprend. On vit pour lui, mais un jour, on va le voir face à face. On va être éternellement avec le Seigneur. Voilà le message. Jésus a amené la vie éternelle. Jésus a amené l'immortalité. La vie éternelle se trouve en lui. Fait qu'il y a tout un avenir qui nous attend. Êtes-vous d'accord avec cela? Rempli d'espérance. Mais je veux souligner, regarder quelques passages bibliques. J'en ai jusqu'à 10h, 10h30. Vous pouvez quitter... Non. On va essayer d'être raisonnable. C'est difficile des fois, les pasteurs, d'être raisonnable. Mais on va regarder les passages, on va les sonder. On va regarder les passages et puis on va laisser le Seigneur. Il n'y a pas grand commentaire, j'espère. Et on va juste toucher dans Jacques, premier chapitre. Jacques, le premier chapitre, et verset 12. Voilà. Jacques, premier chapitre, et c'est le verset 12. Concernant la tentation, on sait qu'il y a un tentateur, on sait que la tentation existe, et Jacques, ici, il nous indique, il nous donne une façon de voir cela, parce que c'est réel. Verset 12, il dit, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. » Voilà. Heureux l'homme ou la femme qui supporte. On supporte. De quelle façon, Jacques? Avec patience. Ça vous manque un peu, des fois, la patience? On peut lever les mains, les pieds. Il y a une clé là-dedans, la patience. La vie nous aide, si on va avec la vie, le Seigneur, à être plus patient. Plus qu'il manque de patience, plus que c'est difficile. Plus que le Seigneur va nous enseigner. Il va nous donner, fait passer un autre cours. La patience dans la vie chrétienne, c'est une vertu. Parce qu'il y a de la foi là-dedans. Il y a de l'obéissance là-dedans. Il y a de la soumission là-dedans. Il y a de voir les choses la façon que Dieu les voit. Fait qu'on est patient, Seigneur, parce que tu es fidèle, tu vas amener quelque part, n'est-ce pas? Et le Seigneur nous touche. Bon, et puis la tentation, ça existe. La Bible reconnaît, Seigneur, la tentation existe. Car après avoir été éprouvés, nous autres, éprouvés, mais un, il recevra la couronne de vie. Je ne pense pas que c'est une couronne comme cela, hein? Mais c'est une qualité de vie, un cadeau de vie que, bon, je vous l'expliquerai dans 100 ans, 200 ans d'ici, là, dans l'éternité, que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Ici, on voit la tentation, on voit éprouver, et j'aime comment ça finit. Il va donner ça à ceux qui l'aiment. La vie chrétienne, ça ne se vit pas sans l'amour. Dites-vous amen. C'est la clé de la vie chrétienne. Aimer Dieu de tout notre cœur. Et on peut supporter n'importe quoi si on aime. Et le Seigneur a subi toutes sortes de choses. On est dans la semaine sainte. Il a subi les choses. Il s'est donné. Pourquoi? Parce qu'il nous a aimés. Jusqu'au bout. Et la vie chrétienne, ça se ne vit pas avec des règlements, avec des lois, avec un pasteur là qui fouette le peuple, puis fait ceci, fait cela, puis on est tous condamnés. Puis... Non, 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 non. La vie chrétienne, ça se vit avec une foi en feu pour le Seigneur. Amen. Avec un amour et une foi dans le Seigneur. Fait que, à ceux qui l'aiment, nous sommes de ceux qui l'aiment. Encore, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Des fois, on peut... Le Seigneur, pourquoi tu permis cela? Et peut-être on ne le dirait pas à haute voix, c'est sa faute. Mais des fois, on peut bouder. Des fois, ben c'est... ça va pas bien. Hein? Qui ne disent pas que c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Et là, le verset après, ça va nous donner une claque. Là. Aimes-tu ça, des claques? Quand c'est Dieu qui le donne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé ou initié par sa propre convoitise. D'où vient la tentation? Je suis sauvé, je sais, mais on n'est pas perfectionné encore, on est en chemin. Et c'est ça la lutte. C'est là qu'on meurt, c'est là que dit « Seigneur, aide-moi ». Seigneur, j'ai besoin de toi de vaincre. Seigneur, j'ai besoin de voir ta puissance. J'ai besoin, Seigneur, que tu m'aides. Je suis tenté, je ne veux pas céder. Je ne veux pas me laisser aller, Seigneur. Je veux te glorifier. C'est ce que le Seigneur veut. Et on a des choix à faire. Et le Seigneur veut sabler un peu. Le Seigneur veut couper. Le Seigneur veut faire un travail en profondeur. Ce n'est pas juste superficiel, la vie chrétienne. Ça va loin. Des fois, ça va tellement loin qu'on pense qu'on n'est pas capable, dans un sens. Donc, d'où vient cette tentation? Ben, je m'excuse, mais ça vient de nous. Il dit, ça vient de notre propre nature, c'est la chute de l'homme. Et j'ai eu un téléphone, oui, j'ai encore un autre téléphone cette semaine. Une femme téléphone, elle dit, et puis au juste, je résume, elle dit, elle parlait de quelqu'un, je ne sais pas qui, là. Et puis elle dit, oui, mais la personne est née de nouveau, elle est sauvée, puis il y a ça. Puis j'ai dit, oui. Elle dit, est-ce que ça peut? J'ai dit, oui. Parce que le Seigneur nous sanctifie. Nous sommes sanctifiés positionnellement. Le Seigneur nous a sanctifiés. On est sanctifiés, mais on travaille à notre sanctification. Le Seigneur nous sanctifie. Il nous sanctifie dans les choses de la vie. Il travaille fidèlement. Il nous amène plus proche de lui. Et par les moyens, les choses qu'on vit, ne regarde pas l'autre. La sanctification qui se fait dans ma vie, les choses que je vis. Des fois, on veut, j'aimerais vivre ce que les autres vivent. Non, fais pas cela. Le Seigneur fait son travail explose dans votre vie. Le Seigneur, il se manifeste dans votre vie, ce que vous vivez. Fait que ne pensez pas que le Seigneur a de quoi contre vous, il vous aime. Et là où vous êtes, il se manifeste, il devient de plus en plus cher. Puis la convoitise, il dit la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. De vivre avec une convoitise, de vivre avec les pensées qui ne sont pas de lui, il dit, ça enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Le péché, la désobéissance à Dieu, de faire notre propre volonté, ne nous mène nulle part. Ou ça nous amène à un endroit où ce n'est pas agréable. Ça ne glorifie pas Dieu. On se fait du mal, hein? Fait qu'on rejette les mensonges de ce qui nous est offert. On rejette les choses de notre propre nature et on s'expose au Seigneur. On dit, Seigneur, me voici. Seigneur, j'ai ce problème-là. J'ai ces pensées-là. J'ai cette tendance-là. Veux-tu m'aider? Et le Seigneur, bien sûr, je veux t'aider. Et là où vous êtes, je veux vous aider maintenant. Fait que, enfant de Dieu, ayez confiance. Peu importe ce que vous vivez, ayez confiance que le Seigneur, c'est notre guérisseur. C'est le divin chirurgien. Il sait exactement, même quand on ne se comprend même pas, même qu'on est un peu perdu, là, et puis on se dépasse nous-mêmes, on est surpris de nous-mêmes, venez à Jésus-Christ. Il est le divin médecin. Et on se livre à lui. Seigneur, je ne me comprends plus. Seigneur, j'ai vraiment besoin de toi. Et quand on crie à lui, vous savez, quand on crie au Seigneur, il nous entend. Et le Seigneur fait son travail. Puis l'Esprit Saint travaille en nous. Il souffle en nous. Et c'est toujours un souffle de vie. Un autre passage dans 1 Corinthiens. Et c'est le verset 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Ici, je vois la tendance, ça peut arriver, pas à vous évidemment, je parle aux autres. On se pense debout, ça fait longtemps que je suis chrétien, puis tu sais, on a un peu de confiance en nous autres-mêmes. C'est bon d'avoir une confiance, une certaine confiance en soi-même. Mais que celui qui croit être debout, je suis solide, je suis fort, je connais le Seigneur, je connais les passages bibliques, prenne garde de tomber. Point d'exclamation. Fait que on est humble. Notre confiance est dans le Seigneur. Et je pense que si on est proche du Seigneur, si on a la pensée du Seigneur, on a la crainte de Dieu, et on se dit, Greg, fais attention. N'est-ce pas? On est wise, on est sage, on comprend que de moi-même, non. Non, c'est vraiment le Seigneur. Et j'aime beaucoup le verset 13, il dit, toujours on parle de la tentation, ou l'épreuve, on est mis à l'épreuve, le Seigneur est là-dedans. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait pas été humaine. C'est pas humain ce que je vis là. Ça me dépasse. Non, le Seigneur, il sait la limite. Le Seigneur est rempli de mots. Il dit, « Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. » Il me semble qu'il faut que je lise ça encore une fois. Je vais lire encore une fois. Dieu, il dit, « Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. » C'est une promesse. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Et laissez le Seigneur faire accomplir son œuvre. N'est-ce pas, c'est merveilleux? C'est une promesse. On peut amener ça à la banque. On peut mettre les deux pieds, Seigneur, tu l'as dit, Seigneur, je vis quelque chose d'atroce, Seigneur, ça me dépasse. Mais gloire à Dieu, tu vas t'obliger de regarder le Seigneur. On va t'obliger de mettre notre foi en lui. On va t'obliger de crier, Seigneur, j'ai besoin de toi. Il n'y a rien de mal là-dedans. Ça ouvre les écluses des cieux. Ça ouvre notre vie. On n'est pas, c'est pas sur moi. Et puis, on peut ôter ce stress que c'est sur moi, ce que les autres vont penser. Pense ce qu'ils veulent. Seigneur, c'est ce que toi, tu penses de moi. Et là, on devient libéré de nous autres-mêmes. Amen. On a besoin de se libérer, que le Seigneur nous libère de nous autres-mêmes. Qu'est-ce que les autres vont dire? Enfin, pas complètement, mais un peu. Enfin, on se comprend. Mais il dit, mais je l'ai lu, c'est vrai. Avec la tentation, il va pouvoir le chemin, une sortie. Et le Seigneur, là-dedans, il va accomplir son œuvre de maître, de maîtrise, et il va accomplir en nous ce qu'il veut. Le Seigneur veut de l'or pur. Le Seigneur a un but pour notre vie. Et il veut que là-dedans, que je le glorifie. Non pas que j'abandonne, non pas que je refroidis, non pas que je délaisse l'Église, non pas que je m'apitoie sur moi-même. Non, que j'avance, Seigneur, je te veux davantage. Et voilà, le Seigneur est glorifié là-dedans. Un autre passage que je lis tout de suite, vous le connaissez bien, 1 Jean, chapitre 1, verset 9, il dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Voilà l'œuvre, voilà sa job, voilà ce qu'il fait. Puis des fois, on peut tomber à répétition. Des fois, on peut faillir à répétition et l'ennemi dit, tu n'es même pas sincère. Ou le Seigneur ne t'entend pas. Il est menteur, Dieu est vrai. Et on revient autant qu'il faut dans la repentance, dans la foi exprimée, confesser notre foi dans le Seigneur, jusqu'à ce qu'on se lève debout et on dit, Seigneur, tu m'en as délivré, je suis ton enfant, tu es vivant, tu es fidèle, je t'aime de tout mon cœur. Amen. Il change notre vie et lui reçoit toute l'honneur et la gloire. Jacques, chapitre 4. Jacques, il ne mélange pas, est-ce qu'on dit, il mince pas ses paroles? Je ne sais pas si ça dit, ça c'est en anglais, je pense. 1 Jacques, chapitre 4. Est-ce que Lucille est toujours à job, là? Oui, Lucille, ça va? Good, OK. Faut checker, là. Bon, Jacques, chapitre 4, 7 à 10. Vous connaissez le passage? Résistez au diable et il fuira loin de vous. Vous connaissez? Connaissez-vous ce qui est avant, mais probablement, hein? ça va ensemble. Résister le diable. Oui, mais avant cela, c'est très important, soumettez-vous. Soumettez-vous donc à Dieu. La soumission. La soumission, on n'entend pas souvent. On fait notre propre volonté et on en est fier. Mais dans le royaume, est-ce que c'est moi ou c'est... Dans le royaume de Dieu, ce qui est à la vogue, ce qui n'a pas changé, la soumission. Avec la soumission, c'est un passe-partout. Tu vas nulle part dans le royaume de Dieu. Dans le monde, oh, parle-moi pas de la soumission. C'est moi le roi. C'est moi le roi. Ce sont mes droits. Et on va se chicaner, on va se battre dans la rue pour mes droits. Le royaume, tu veux ma tunique? Mais prends-le. De toute façon, j'en ai un autre. Ou quelqu'un marche sur nos orteils, pas ici, évidemment. Mais quelqu'un marche sur mes orteils, quelqu'un me blesse, il se prend pour qui? Ils ne savent pas qui je suis? Enfin, je pense qu'on est familier avec la nature humaine. Je peux en parler ouvertement, je suis humain. On vit des choses, mais... La soumission. Seigneur, c'est quand j'y pense, c'est bon pour moi. Ma tête, là, mon estime de soi. Et le Seigneur permet. Vous dites, ça vient du Seigneur? Oui, ça vient du Seigneur. Parce qu'il nous aime. Et le Seigneur veut faire de nous des serviteurs. Les gens qui mettent le Seigneur et le royaume et la paix dans l'Église, la paix entre frères et sœurs, avant moi-même, ça se peut-tu? Est-ce possible? C'est ce que le Seigneur veut. Il dit, regardez les intérêts des autres au-dessus de vous. Laissez-moi vous dire, ça ne vient pas de la nature humaine. N'est-ce pas? Ça vient de Dieu. Ça vient qu'on aime les autres. Et quand on voit quelqu'un d'autre, on veut aider. Quelqu'un qui ne fait pas les choses correctes, c'est ça, on dit des rough edges, il y a des choses que, bon, c'est pas perfectionné. Oui, mais plutôt que de sauter, de critiquer, de pointer le droit, est-ce que je peux vous aider? Est-ce que je peux prier pour vous? Hein? C'est le royaume de Dieu. Et en servant les autres. On est toujours dans Jacques 7, chapitre 4. Soumettez-vous donc à Dieu et alors résistez au diable. Va pas contre lui dans vos propres forces. Ça marche pas. Mais si on se soumet à Dieu, résistez au diable et il dit, et il fuira loin de vous. Pourquoi? Parce que tu es rempli de Dieu. Parce que tu es animé avec le sentiment de Jésus-Christ, la pensée de Jésus-Christ, puis il ne se tient pas là. Fait qu'on est déjà soumis. Il dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains. Jacques, il dit vrai. Il dit, nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et que votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Je ne sais pas exactement ce que Jacques vivait dans l'église là, mais comme on dit là, il a mis les aiguilles à la bonne place là. Il a livré un message. Et des fois, on a besoin d'entendre un message qui ne nous convient pas, mais qui nous convient. Que si on l'applique, on aura la sagesse de Dieu, on aura la bénédiction de Dieu. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Le Seigneur est dans le business de nous élever, pas de nous écraser, de nous élever. Mais il y a une façon. Le Seigneur élève ses enfants qui sont soumis, qui l'aiment de tout leur cœur. J'ai d'autres passages. 2 Corinthiens 2. Si c'est juste les pensées qui vont avec ce thème. 2 Corinthiens. Il y a tellement de papier dans ma Bible. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort, aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Car nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Fait que le Seigneur nous fait toujours triompher en Christ. Et une autre version dit que le Seigneur triomphe de nous. Mais j'aime ce que c'est écrit. Il nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Si on est avec le Seigneur, si on marche avec lui, on l'écoute, on est sensible à sa voix, il nous fait toujours triompher en Christ et il répand par nous l'odeur, le parfum de sa présence. Ça, c'est la vie abondante. Ça, c'est la vie de l'esprit. Et on influence. Les autres peuvent détecter qu'on est différent. Pas parce qu'on est différent de nous-mêmes, mais ils peuvent ressentir qu'il y a quelque chose de différent dans cette personne-là. Et c'est voilà ce que le Seigneur veut faire. 2 Corinthiens, chapitre 7, maintenant. On achève tranquillement. Fait que n'ayez pas peur. Mes menaces, c'est juste de jouer. 2 Corinthiens 7 et le verset 1er. Ayant donc de telles promesses bien-aimées, parce qu'on est bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. N'est-ce pas riche? C'est huileux, ça fait du bien. C'est direct, c'est pur. Donc, purifions-nous. À qui? C'est à nous. C'est notre job, c'est notre travail, c'est notre privilège. Bien-aimés, tout souillure de la chair et de l'esprit, en achevant comme notre sanctification dans la crainte du Seigneur. Puis, vous savez, il s'agit juste, c'est pas des lois, des règlements, c'est juste de venir dans sa présence, dans sa parole, et le Seigneur va nous parler. C'est aussi simple, aussi beau que cela. On est honnête devant le Seigneur. Me voici, Seigneur. Je veux apprendre. Je veux te glorifier. Je suis à toi. Seigneur, tu es mon sauveur. Tu es mon Seigneur. Et avec un cœur de même, le Seigneur agit. Le Seigneur nous purifie et on travaille avec le Seigneur. On écoute sa voix. 2 Corinthiens 4, je pense que c'est mon dernier. 2 Corinthiens 4 et le verset 5. C'est l'apôtre Paul, hein? L'apôtre Paul, c'est quand même tout un modèle pour les enfants de Dieu. Jésus est le modèle, évidemment. Mais l'apôtre Paul, Je pense qu'il a vécu pour le Seigneur pas mal, n'est-ce pas? Sa vie, son cœur pour Dieu, il a tout donné. Et le Seigneur veut que vous et moi, qu'on donne tout. À notre façon, selon l'appel de Dieu dans notre vie, on ne sait pas, on n'est pas l'apôtre Paul. Mais je peux me donner. Le Seigneur nous donne ce privilège et cette capacité de se donner au Seigneur et de se donner même davantage. Regardez 2 Corinthiens 4 et le verset 5. Pardon. Verset 5, il dit, « Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus, serviteur. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs. Voilà le miracle de la nouvelle naissance. Pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Jésus-Christ. Il a lui dans notre cœur pour qu'on soit la lumière du monde. Hein? Brille, Seigneur, brille en notre vie, brille à Edmonton, brille dans la région, Seigneur, que ta gloire puisse éclater, Seigneur. Tu es capable, tu peux, Seigneur, faire un réveil, tu peux, Seigneur, parle et me voici. N'est-ce pas Isaïe quand il a eu cette vision, le roi qui est mort, et c'était triste, les gens ne savaient plus quoi faire. Et Isaïe a eu une vision qu'il a vu le roi. Le roi est mort, vive le roi. Le roi, il a vu le roi, il a vu la présence de Dieu. Et il a, en quelque sorte, oublié la situation dans laquelle il se trouvait même en tant que pays. Et il a vu la gloire du Seigneur. On a besoin de voir la gloire du Seigneur. On a besoin de voir le Seigneur tel qu'il est, pour qu'on puisse vivre devant le Seigneur tel qu'il est avec sa force. Et quand il a vu la gloire du Seigneur, et puis le Seigneur dit, « Mais qui ira pour nous? » C'est la même chose. Le Seigneur cherche des serviteurs. Les gens qui partagent, les gens qui vivent pour le Seigneur. Et Isaïe, il a entendu cela, et devant cette gloire, devant cette majesté, il dit, « Me voici! Me voici! » Et il se sentait impuissant ou pas capable, et le Seigneur a pris un charbon ardent de l'autel, s'il vous plaît. On n'oublie pas l'autel. Il y a un autel. Il a pris ça, il a touché ses lèvres, il a été sanctifié, été purifié. Et puis, on a besoin de cela, n'est-ce pas? Ce sont des images qui nous parlent du Seigneur, son travail en nous. Le Seigneur est prêt à nous montrer sa gloire, puis nous cherchons la gloire du Seigneur. Verset 7 dit ceci, « Nous portons ce trésor où? Dans des vases de terre. » Nous sommes tous des vases de terre. Je ne veux pas vous offenser. Vous êtes beaux tels que vous êtes. Belles vases, des belles vases. Mais on est des vases de terre. Ça souligne notre fragilité. Ça souligne que la vie passe vite. Excusez-moi, ça souligne où est-ce qu'on s'en va. On est de la poussière. On retourne à la poussière. C'est maintenant que nous avons ce privilège de racheter le temps, de vivre pour le Seigneur. Pas quand tout est bien, de vivre pour le Seigneur maintenant. Et je sais que vous avez décidé cela, mais ça fait du bien de le redire. Hein? Ça fait du bien de savoir qui nous sommes. Et il dit, nous portons ce trésor. Le trésor, ce n'est pas nous. Le trésor, c'est ce que le Seigneur a investi en nous. Il a brillé en nous. Il nous a donné de son Esprit Saint. On a la vie éternelle. Il dit, « Afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » Y a-t-il quelque chose là-dedans que vous ne comprenez pas? La Bible est tellement claire, tellement ça fait du bien. Et si notre cœur, notre entendement est ouvert, ça vient, et puis on boit de cela, on mange, ça devient une nourriture pour notre âme, puis dit, vrai Seigneur, amen, c'est vrai Seigneur. Et ça nous encourage. Ce n'est pas déprimant, ça nous encourage. Ça met de l'espérance dans notre cœur. Seigneur, pour le peu de temps qu'on est ici, tu nous as choisis, tu as mis ta main sur nous, et je peux te glorifier. Et je veux te glorifier, Seigneur. Paul dit, il parle de lui un petit peu, son témoignage, si vous voulez. Il dit, nous sommes pressés de toute manière. Ah, Paul, tu n'es pas assez parfait, tu n'as pas atteint la perfection. Il dit, non, je n'ai pas atteint. Mais il dit, nous sommes pressés de toute manière. Est-ce qu'on parle de vous, là, un peu, des fois? La pression. La vie, la pression. Dans notre vie, la pression. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. On est encore en vie. Dans la détresse, avez-vous jamais mangé cela? Mais non dans le désespoir. J'ai été dans des places, peut-être vous aussi. Moi, j'avais comme l'image là, que je me noyais, et des fois, le Seigneur, il envoyait une paille. Et moi, je me suis pris à cette paille-là, puis pour la journée, ça m'a fait du bien. Le lendemain, il y a autre chose. Le Seigneur nous tient notre tête levée, on ne se noie pas. Mais laissez-moi là-dedans, une fois qu'on est sorti, là, on donne vite la gloire au Seigneur. Parce que là, on sait où est-ce qu'on était, on sait du puits de laquelle il nous a tirés, de la boue même, dit le psalmiste. Dans la détresse, mais pas dans le désespoir. Persécuté, mais non abandonné. Wow! Abattu, mais non perdu. Portant toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus. Pensez-y. Afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. La mort qui se manifeste en nous devient résurrection. Jésus est l'esprit de résurrection. Jésus est ressuscité. Pour avoir une résurrection, il faut qu'il y ait un mort avant. Et on vit la résurrection de Jésus-Christ par la puissance de l'Esprit-Saint. Le Seigneur nous ressuscite dans sa vie. On marche avec le Seigneur, on marche avec le roi. Et il travaille la vie de Christ en nous. Des fois, on est appelé à mourir. Pas des fois, on est appelé à mourir à nous autres-mêmes. Et Jésus, il sait comment performer, comment faire ceci. Verset 11, il dit, « Car nous vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus. » Ce n'est pas drôle pour Paul. Hein? Il a vécu beaucoup de choses. Mais il dit, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans votre chair mortelle. Ce qu'il faisait, ce qu'il a souffert, c'était pour même aider les autres, comme Jésus-Christ. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Il a subi cela, il n'était pas obligé. Mais il a opté, il a reçu cette vie-là dans le Seigneur pour le bénéfice des autres et qu'il était comme son maître. Et le Seigneur nous appelle à cela aussi. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons que c'est pour cela que nous parlons. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Il dit, car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu tes actions de grâce d'un plus grand nombre. La grâce qui se multiplie dans les circonstances difficiles. La Bible dit, même où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Et je termine avec le verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Amen. Car nos légères afflictions, Paul, tu parles des légères afflictions? Oui. Du moment présent, produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. J'ai envie de sauter, mais je ne veux pas sauter trop ici, là, parce que... Mais incroyable! Il dit, voilà ce que ça... Les petites afflictions ici-bas, il les voyait avec les lunettes éternelles, avec les lunettes de Jésus-Christ. Ça produit un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, on les voit. Car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Enfant de Dieu, on a un plan merveilleux. On a un Dieu glorieux, fidèle, et il nous fait des promesses et il nous donne sa vie. Il est ressuscité, vous savez, et il est à la droite de Dieu le Père et il nous remplit de sa pensée, de sa présence. Je vous invite de vous lever, s'il vous plaît. Je vais demander à l'équipe musicale de venir. Nous voulons glorifier le Seigneur par un chant, et nous voulons prier le Seigneur. Amen. Hallelujah.